Merci pour votre intervention, Mathilde. Et puis, du coup, on va accueillir notre deuxième Mathilde. Donc,
Bonjour à tous.
Mathilde Hermelin-Burnol, de l'équipe organisatrice et de l'UMR Ruralité. Donc, Mathilde, je t'en prie, nous t'écoutons, qui va nous présenter un travail sur les pesticides et la transition autour de ces thématiques.
Alors, j'essaye de faire fonctionner. Est-ce que vous voyez mon diapo?
Oui.
Ok. Parce que mon ordi m'affichait problème technique, etc. Donc, j'étais pas sûre que tout le monde y avait accès. Alors, hop. Donc, ma présentation va faire un peu écho aux enjeux qui ont été soulevés dans les deux présentations précédentes, en particulier la question du poids des enjeux techniques, la question du passage d'un paradigme à un autre. Elle porte sur la question des pesticides. Je me demande quelles sont les transitions, transition avec un S, parce que j'ai identifié plusieurs modèles de transition qui ont lieu pour mettre fin à l'utilisation des pesticides en France. Pour ça, je vais m'appuyer sur mon état de l'art. Je suis en deuxième année de thèse, donc j'ai réalisé mon état de l'art sur la question, et j'en suis à mon début de terrain dans le bassin de Poitiers, autour de la grande culture céréalière. Donc pour commencer, quelques chiffres. On a bien une augmentation de l'agriculture biologique qui représente aujourd'hui à peu près 10% des exploitations françaises. Et pourtant, dans le même temps, on a une augmentation aussi de l'utilisation des produits phytosanitaires, autrement appelés pesticides. La France est le 7e utilisateur mondial, et par exemple, rien qu'en 2017-2018, on a eu plus d'un quart d'augmentation de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on est face à une sorte de paradoxe, à la fois on a des projets qui se multiplient pour mettre fin à l'utilisation des pesticides, et en même temps, quand on regarde les chiffres, on a une constante augmentation de leur utilisation sur les territoires. Donc c'est à partir de ça que je vais me demander quelles sont les définitions de la transition qui peuvent nous permettre de comprendre cette utilisation des pesticides et ce chemin vers la fin des pesticides. Pour ça, je vais en particulier m'appuyer sur deux types de définitions différentes. La définition qui a été déjà évoquée par plusieurs, le passage d'un état à un autre. Donc l'état 1, ça serait l'état actuel dans le cas où on utilise majoritairement des pesticides. Et l'état 2, ça serait une agriculture sans pesticides, qui est demandée par certains. Et pour moi, j'identifie une deuxième forme de transition, qui serait plutôt quelque chose de transitoire, où on resterait sur cet état intermédiaire de manière assez constante. Donc, de quelle manière peuvent se construire ces différentes lectures de la transition, et à qui vont-elles bénéficier par la suite? Pour cela, je vous propose trois parties. Une première partie qui va être un petit peu technique, mais qui me semble totalement indispensable pour bien comprendre quels sont les enjeux sous-jacents derrière l'utilisation des pesticides. Une deuxième partie qui va montrer l'impossible conciliation des deux interprétations dominantes d'une transition vers la fin des pesticides. Et une troisième partie qui va plus s'appuyer sur mon début de terrain et qui va s'interroger sur des transitions qui vont être spatialement différenciées. Donc les fondements des interprétations différenciées des risques. Oui.
Pardon, on ne voit pas ton diapo défiler. Est-ce que c'est normal?
Ce n'est pas normal. Je pense que c'est mon ordinateur qui doit bloquer. Ah, ça marche là?
Oui.
Ok.
Je pense qu'il faut que tu restes sur ta fenêtre de ton. Ouais.
Je vais le laisser comme ça. Donc là, vous avez mon plan.
Oui.
Et donc là, sur la première partie. Donc on a des interprétations qui sont très différenciées des risques. Au fondement, il y a une incertitude scientifique qui est très forte autour des pesticides. J'utilise le terme pesticide de manière générale, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de molécules différentes. Pour chaque molécule, on va avoir un produit commercial qui va être différent. Et si on voulait, d'un point de vue rationnel et objectif, prouver une dangerosité d'un produit, il faudrait pour chaque produit faire un test sur une très longue durée, sur un territoire déterminé, pour derrière montrer une certaine dangerosité. Donc c'est un processus scientifique qui est impossible à l'heure actuelle, qui a été fait pour certains types de produits, comme les néonicotinoïdes pour les abeilles, et c'est impossible de généraliser à tous les produits. Et donc sur les pesticides, on va avoir des différences énormes. On en a certains qui sont extrêmement toxiques, qui ont été prouvés comme assez toxiques, ceux qu'on va mettre par exemple dans la catégorie CMR. Pour vous donner une idée de cette toxicité assez forte, CMR, parce que certains vont être cancérigènes, mutagènes, donc des changements au niveau de l'ADN, et reprotoxiques, ça veut dire que ça peut avoir des conséquences sur plusieurs générations. Donc quand une personne va être touchée, sa descendance aussi va pouvoir être touchée. Et l'enjeu qui est pour moi au fondement de cette incertitude, qui a été montré en particulier par Jean-Noël Jouzel, c'est la question des effets à faible dose. Aujourd'hui, on se rend compte que sur les pesticides, on est obligé de changer complètement notre lecture du risque. Habituellement, on a une lecture du risque en se disant, bon, on va fixer un certain seuil, et à partir de ce seuil-là, ça va devenir dangereux. Sauf que les pesticides, à cause de leur fonctionnement comme perturbateurs endocriniens, ils remettent en cause totalement cette lecture. Les perturbateurs endocriniens, en fait, ils ont un effet important sur tout le système hormonal quand ils sont utilisés à très faible dose pendant des longues durées. Donc, tout notre référentiel avec lequel on a évalué les risques, ce qui a permis de rendre les risques acceptables, comme l'a particulièrement montré Nathalie Jasse autour de la question des pesticides, s'est remis en cause avec cette question des perturbateurs endocriniens. Donc, on a une incertitude scientifique très forte sur le degré de dangerosité. On sait qu'il y a un effet, mais c'est impossible de le mesurer, et les scientifiques eux-mêmes sont d'accord là-dessus. Face à ça, on va avoir deux phénomènes. Un phénomène de forte visibilité à l'échelle nationale et un phénomène d'invisibilité à une échelle locale. Rapidement, à l'échelle nationale, cette visibilité, elle est portée par quatre facteurs. Je pourrais les développer plus tard si vous voulez dans les questions. Une expertise scientifique qui est croissante sur ces questions-là. Une scène judiciaire qui commence à se mettre en place, en particulier aux États-Unis, autour des procès avec Monsanto. Des médias qui se sont énormément emparés de ces questions. D'ailleurs, cette emprise médiatique est très critiquée du côté du milieu agricole. Et d'un point de vue juridique, on a une inflation des réglementations et des lois autour de cette question, en particulier avec le plan Ecophyto qui a été mis en place en France et le paquet européen pesticides en 2009 qui en fait fondait quasiment toute la réglementation française. À côté de ça, on a un phénomène d'invisibilité et d'invisibilisation à l'échelle locale. Je différencie les deux parce qu'on a une invisibilité, ça veut dire que je vais développer l'invisibilité, puis ce qui va la renforcer, l'invisibilisation. Cette invisibilité, elle est liée à ce que Hussmann appelle une ignorance toxique. On a une forte méconnaissance pour toutes les personnes qui côtoient ces pesticides, par exemple les riverains, même les agriculteurs, sur leur mécanisme de fonctionnement. Et c'est extrêmement difficile pour une personne lambda de connaître les effets parce qu'il faudrait qu'elle ait toute une expertise technique et qu'elle ait tout l'outillage technique derrière pour être capable tout simplement, par exemple, de mesurer l'effet pour savoir la quantité de pesticides qui est sortie du champ. On a aussi une très forte invisibilité physique des produits. Un pesticide, il n'a pas d'odeur la plupart du temps parce qu'on développe des produits avec le moins d'odeur possible. Il est invisible à l'œil nu. Les équipements utilisés par les agriculteurs ne disent rien de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on est sur un risque qui est majoritairement invisible. Et cette invisibilité physique est encore renforcée par un tabou qui est très fort dans le milieu agricole autour de l'utilisation de ces produits. Un petit exemple, hier j'étais à une réunion sur cette question-là. En 2 heures de réunion, le mot pesticide n'a jamais été prononcé. Donc ça a été fait uniquement par des contournements, le mot un petit peu de traitement, des épandages, et à chaque fois, on met de côté ces questions-là. On a aussi, du côté des agriculteurs, une très forte invisibilisation des pratiques. Ils utilisent les produits généralement le soir et le matin, à la fois parce que c'est plus efficace et en même temps parce que ça permet de désamorcer un certain nombre de conflits. C'est plus simple pour eux que le voisin ne les voit pas avec leur grosse combinaison pour les protéger en train de faire leur traitement. Donc pour eux, c'est une double efficacité. À la fois, ça permet d'éviter d'être vu et en même temps, les produits fonctionnent mieux. Et ce que j'ai constaté dans mes débuts de terrain, c'est que d'un point de vue symbolique, on a aussi une très forte invisibilisation de la question. À chaque fois que j'ai questionné cette question des riverains, on a eu une dévalorisation systématique de leur parole en mettant sur le même plan le riverain qui va se plaindre du chant du coq, le riverain qui va se plaindre du bruit des tracteurs et le riverain qui se plaint de l'utilisation des pesticides. Donc on a une forte dévalorisation avec cette association avec le conflit de voisinage ou la question des nuisances. Donc on a deux phénomènes, une visibilité nationale qui va contraindre l'agriculture conventionnelle à prendre un certain nombre de mesures, et en même temps une forte incertitude, la question d'un principe de précaution qui va pousser les acteurs de la société civile à aussi s'emparer de cette question. Et donc là, sur cette deuxième partie, je vais vous présenter ce qui me semble les deux visions de cette transition. On a une première transition que j'appelle la transition rupture, qui serait vraiment celle d'un passage d'un état A où on utilise les produits phytosanitaires, un état B où on ne les utilise plus. Elle me semble portée par pas mal d'acteurs de la société civile, certains acteurs par exemple qui sont dans l'agriculture biologique, plus particulièrement sur les riverains qui sont au cœur de ma thèse, c'est des médecins qui portent cette parole-là, certaines associations comme Génération Future. Par rapport aux risques que je vous ai décrits, c'est l'intégralité des risques qui est considérée. On prend en compte les pesticides comme des perturbateurs endocriniens, qui ont un effet à faible dose, et donc, de manière logique, on demande leur interdiction totale comme on n'est pas capable d'estimer le risque, on préfère arrêter le risque avec l'utilisation d'un principe de précaution de manière quasiment extensive. Cette question de la transition un peu en forme de rupture, elle fait écho avec les recherches qui ont été faites sur les questions de transition agroécologique. Beaucoup de sociologues et d'économistes se sont posés sur cette question et ils ont montré que notre système agricole français, l'agriculture intensive, est soumis à une sorte de verrouillage. On est obligé d'utiliser les produits phytosanitaires parce qu'on a une spécialisation des cultures, de la monoculture, une homogénéisation des cultures qui vont renforcer énormément la vulnérabilité des cultures aux parasites. Et donc pour ça, la seule réponse à l'heure actuelle, c'est l'utilisation des pesticides. Donc c'est le fonctionnement même de notre agriculture intensive qui rend obligatoire l'utilisation des produits phytosanitaires. Et c'est pour ça que ce type de transition, elle suppose une remise en cause systémique de notre fonctionnement du système agricole pour arrêter d'utiliser les pesticides. Le deuxième type de transition, pour moi, il me semble beaucoup plus porté par les acteurs classiques de l'agriculture conventionnelle avec un fort soutien des politiques publiques. Elle répond à cette question de forte visibilité et de pression croissante sur le monde agricole autour de ces enjeux-là. Et elle met en place ce que j'ai appelé une transition de l'entre-deux. Il y a bien une utilisation d'un vocabulaire de la transition avec un certain nombre de projets qui permettent réellement de réduire l'utilisation des produits. Le label HVE, agriculture à haute valeur environnementale, une agriculture appelée de la conservation qui permet de plus se centrer sur le fonctionnement des sols. Parfois, même si c'est très polémique, une agriculture raisonnée, mais on est vraiment sur une autre définition du risque. Les produits phytosanitaires ne sont pas dangereux s'ils sont utilisés dans les bonnes conditions d'utilisation qui sont mises en place par l'État à travers de l'ANSES. Sur mon terrain, ça revient par exemple énormément avec la métaphore du médicament. Non, le produit phytosanitaire n'est pas dangereux, c'est comme un médicament. Il faut juste l'utiliser à une bonne dose dans les préconisations d'utilisation du médecin. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, ça permet de guérir les plantes, c'est quelque chose qui est bénéfique. Cette forme de transition, elle utilise énormément les solutions techniques. C'est l'idée qu'il faut avoir une amélioration énorme de la technique pour permettre de réduire les produits et d'éviter les effets environnementaux qui ont été dénoncés. Elle bénéficie d'un fort soutien financier et politique. Sauf que le problème, c'est que par rapport au verrouillage que je vous ai mentionné, qu'affronte l'autre type de transition, ce verrouillage n'est pas du tout pris en compte. Il n'y a pas de remise en cause du fonctionnement actuel, à la fois les acteurs, la monoculture, la spécialisation des territoires. Et donc, les pesticides vont rester nécessaires dans des doses plus limites, mais ils resteront nécessairement présents dans l'agriculture. Face à ça, ma thèse qui s'interroge plus particulièrement sur la question des riverains, j'ai l'impression qu'on arrive sur une nouvelle forme de transition quand on prend en compte non plus la question des cercles de production, mais vraiment l'endroit où sont utilisés les produits phytosanitaires. Les riverains, c'est une question qui pourrait sembler récente, parce qu'elle a énormément émergé en 2019 avec une vague d'arrêtés anti-pesticides. Je les ai tous recensés, je vous ai mis ici un graphique qui montre que ces arrêtés, il y a vraiment un pic en 2019, et en particulier en septembre 2019. Mais en réalité, elle émerge dès 2012. On a des premiers arrêtés qui sont mis en place, et même dans certains territoires comme dans le Limousin, dès les années 2000, on a cette question qui apparaît dans la presse locale avec des associations qui se mobilisent. Et ici, on est sur une autre vision du risque. On met de côté tous les enjeux environnementaux, on est sur une vision très anthropocentrée, où la question reste uniquement sur le risque sanitaire. Et même le risque sanitaire quasiment réservé aux riverains, en mettant de côté la question des agriculteurs. On a de nouveaux acteurs qui, pour la première fois, émergent. Les acteurs locaux, en particulier des maires, s'emparent de cette question-là, sur des territoires où pourtant ça pourrait faire polémique avec une présence des agriculteurs qui demeurent, et des associations locales qui font relais, qui se saisissent de ces questions. Cette question de la prise en compte des riverains, j'ai analysé pour ça les différents arrêtés qui ont été mis en place, je les ai recensés et j'ai regardé comment ils étaient formulés. De ça, j'en ai tiré ce tableau que je vous mets ici, et j'ai comparé les arrêtés avec les types de territoires où ils avaient été pris en m'appuyant sur la typologie de la DATAR. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a vraiment deux modèles différents. On a des arrêtés qui vont concerner toutes les communes, c'est les 49 arrêtés qui sont mentionnés ici, qui sont majoritairement pris dans des communes qui sont en fait entièrement urbaines. Donc, c'est des arrêtés qui sont pris non pas contre un usage agricole, mais uniquement contre un usage des pesticides pour entretenir les espaces verts et les voies privées, en particulier, par exemple, dans l'agglomération parisienne, les voies de la SNCF. Et de l'autre côté, on a des arrêtés qui, eux, vont mentionner des distances. Des distances qui vont aller de 2 à 500 mètres, mais généralement, c'est 150 mètres qui sont utilisés. Et là, ces types d'arrêtés sont beaucoup plus présents dans des espaces où il y a vraiment un contact avec des espaces agricoles. Et ce que ça montre, c'est que l'enjeu, ce n'est plus de faire une rupture, une transition totale d'un système à un autre, mais de faire une transition uniquement là où il y a des riverains qui sont présents, donc là où il y a une question sanitaire qui peut se présenter. Et si on regarde la question de la transition vers un modèle sans pesticides, on a des fortes différenciations spatiales et je dirais même des inégalités spatiales. Parce qu'en fonction des différents territoires, on ne va absolument pas avoir le même type d'enjeux et de potentiels qui vont se poser. Par exemple, au niveau de l'agglomération de Poitiers, on est majoritairement sur la céréaliculture. Donc il y a moins de pesticides qui sont utilisés. Ils sont utilisés plutôt à ras du sol, donc il y a moins de risques que ça se disperse vers les riverains. Et en plus de ça, on est sur des cultures qui sont beaucoup plus grosses. Donc les agriculteurs que j'ai rencontrés, parfois ils me disent que c'est possible de mettre à proximité des riverains des espèces qui ne vont pas du tout être cultivées, qui vont être mises en jachère pour protéger les riverains. Ce type de solution, elle n'est absolument pas possible sur des espèces de vignobles où on va avoir une proximité beaucoup plus forte avec un foncier plus fort, où les agriculteurs vont être obligés réellement de changer leur système de culture. Ces inégalités spatiales, comme on règle tout à une échelle locale sans échelle nationale, elles vont aussi énormément se voir sur les politiques locales qui vont être mises en place par rapport aux espaces agricoles. Dans le Limousin, depuis maintenant à peu près 5 ans, ils ont interdit les nouvelles constructions à 50 mètres de la plantation de vergers. Donc on a ici des élus locaux qui s'emparent de cette question en mettant réellement en place des transitions sur ces échelles de proximité, de forte proximité. A l'inverse, dans certains territoires, comme à Poitiers, on autorise encore des constructions à 50 cm des espaces agricoles. Donc ici, on a des fortes inégalités spatiales qui sont entraînées par cette utilisation différenciée de la transition. Je pourrais revenir là-dessus s'il y a des questions, mais tout ça a été renforcé par l'arrêté qui a été passé en décembre 2019, qui a mis en place des zones non traitées de 5 à 20 mètres à proximité des espaces agricoles, qui les a rendus obligatoires avec une traduction théorique dans des chartes départementales. Donc ce qui m'apparaît sur la transition dans le cas des pesticides, c'est qu'on a vraiment trois modèles différents. On a un modèle où ça va être uniquement transitoire, parfait, je suis sur ma conclusion, dans le cas d'une transition qui va être portée par des acteurs plutôt de l'agriculture conventionnelle, qui voient le risque de manière un peu plus minime. Et le but, ce n'est pas d'aller à un état B, mais juste de continuer sur cet espace transitoire et de réduction. On a une autre transition que j'appelle rupture, qui est portée beaucoup plus par la société civile avec une assez forte absence des acteurs publics. Donc le risque, cette fois, va être maximisé, à la fois un risque qui va être environnemental et sanitaire. Et face à l'impasse qu'on a sur ces deux modèles de transition, ce que je vois émerger, c'est qu'à une échelle locale, on va avoir une forte différenciation des territoires avec des transitions qui vont être appliquées quand l'enjeu sanitaire semble apparaître et des transitions qui vont être totalement mises de côté quand l'enjeu sanitaire riverain n'est plus fortement présent. Merci beaucoup. Et je vous mets ici, normalement, un petit aperçu de la bibliographie si jamais vous avez des questions.
Très bien. Et bah, merci Mathilde. Comme d'habitude, s'il y a des questions, hein, manifestez-vous avec la petite main. Corentin, Corentin, vas-y, je t'en prie, commence.
Oui, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je travaille sur la viticulture dans le Val-de-Loire, dans le changement climatique, mais du coup, évidemment, on parle énormément de la question des pesticides et des zones de non-traitement dont tu as parlé Mathilde, donc je te remercie pour ta présentation. Ce que tu as raconté, moi ça soulève au moins deux points dont tu n'as pas parlé, peut-être que tu travailles, peut-être que tu ne travailles pas, je ne sais pas. Tu parlais du lien entre, de l'invisibilisation symbolique des agriculteurs pour les riverains, donc qui font en sorte de... de rester, d'être un peu discret sur le traitement. On sait que depuis un an, il y a un peu des actions de plus en plus violentes pour les agriculteurs de la part de certains riverains qui subissent, enfin donc des agriculteurs qui subissent des attaques parce qu'ils sont en train de traiter, donc des gens en bio ou pas en bio, peu importe, c'est juste de voir un tracteur avec un diffuseur de produits qui fait peur aux voisins. Il y a l'État qui a mis en place une brigade qui s'appelle Déméter pour lutter contre les incivilités qui sont liées à ça, enfin aux voisins. Bon, finalement, on se rend compte que cette brigade, elle sert plutôt à contrôler les travailleurs saisonniers que les réelles incivilités. Mais enfin, donc je sais pas si ça, tu en parles un peu, si tu regardes un peu.
Et en puis, fait, oui. Juste là-dessus, moi, je l'utilise comme porte d'entrée pour aborder la question avec les agriculteurs, parce que je peux pas dire que j'arrive et que je fais une thèse sur les pesticides. Par contre, j'arrive et je me dis, je m'interroge sur les enjeux que pose la proximité avec les riverains et j'ai inclus un petit peu ça avec l'agribashing. C'est un terme qu'ils aiment beaucoup utiliser, donc ça me permet d'avoir des informations en rentrant par là.
C'est toute la difficulté que je rencontre aussi, c'est qu'on a des agriculteurs qui se sentent perpétuellement montrés du doigt et à qui on demande constamment d'évoluer, de changer leurs pratiques, etc. Et donc ils se sentent souvent agressés par les sujets de thèse qu'on peut avoir, donc toi ou moi, sur ces questions-là. Donc ça, ça doit être une difficulté pour toi que tu as l'air de dépasser. Et il y a quelque chose d'autre, rapidement, c'est justement sur ce lien-là, sur la question de l'invisibilisation, l'incompréhension entre les riverains et les agriculteurs sur les besoins de traitement, en bio ou pas en bio, peu importe. Ça questionne quand même quelque chose qui revient depuis des années, c'est le rapport entre l'urbain et le rural, et des gens qui sont issus plus ou moins de milieux urbains et qui arrivent avec une culture urbaine et qui s'installent à la campagne et qui en fait... refusent que le champ à côté de chez eux soit traité alors que l'agriculture existait déjà avant qu'ils arrivent. Et donc et toute la question des pavillonnaires après qu'on installe en périphérie de ville, au bord de la campagne, etc. Et là, il y a toujours ces questions. En fait, les urbains souhaitent, enfin, une partie des urbains souhaitent accéder à un paysage de campagne, d'agriculture, de voir des beaux champs de blé devant eux, et à côté n'acceptent pas les pratiques qui en fait existent, même si elles sont mauvaises pour la santé, qui existaient avant qu'ils arrivent. Du coup, ça, c'est quand même un truc, moi, qui me paraît être assez intéressant.
Voilà. En fait, c'est au cœur d'une de mes hypothèses de thèse, c'est me demander si ce discours-là, il est porté uniquement par des riverains qui sont ce qu'on pourrait appeler des nouveaux habitants, ou est-ce qu'il apparaît de manière plus générale avec des populations qui sont pas forcément issues de la ville, qui sont des personnes qui sont revenues. Pour le moment, je n'ai pas commencé mes enquêtes auprès des riverains, donc je ne peux pas te donner de réponse dessus. Par contre, ce discours que tu portes, il est très très fortement exprimé par les agriculteurs. Ils assimilent ces nouveaux les riverains à des Parisiens qui arrivent, qui ne connaissent pas les réalités du monde rural, etc. Et en même temps, dans mon état de l'art, j'ai vu quelques travaux qui abordent cette question des pesticides de manière tout le temps, genre 3-4 pages sur une thèse en entier. Et ce que ça semble montrer, c'est qu'il y a quand même une différence dans l'esprit des riverains entre tous les enjeux qui vont être une mauvaise connaissance du monde rural et la question de la santé avec les produits phytosanitaires. Il y avait une thèse qui travaillait sur ces enjeux de nuisance et elle met tout ensemble, toutes les nuisances, et quand elle redonne le discours des riverains, elle dit par contre sur les produits phytosanitaires, ils ne veulent pas parler de gènes comme pour le bruit, etc. Ils parlent réellement de nuisance avec une forte inquiétude et ils ne le mettent pas sur le même niveau. Donc c'est une de mes questions, est-ce que ça, c'est à rentrer dans la même catégorie? Ou est-ce que, à cause du risque sanitaire qui existe quand même pour la santé, est-ce que c'est vraiment quelque chose de différent qui va être partagé par plus d'acteurs que simplement de nouveaux habitants? Mais j'ai pas de réponse pour le moment.
Non, mais mon propos était volontairement un peu fort, c'est à nuancer évidemment. Il y a quelque chose que les riverains ont parfois du mal à maîtriser. Moi, je travaille avec des agriculteurs en bio qui s'équipent avec une combinaison des pieds à la tête pour aller traiter dans leur champ avec du cuivre, donc avec des éléments qui sont aujourd'hui pas vraiment montrés comme étant extrêmement nocifs pour la santé. Mais il n'empêche que quand tu es quelqu'un qui, quand tu connais pas la viticulture et comment l'agriculteur fonctionne et que tu passes à côté en marchant, tu vois très bien en cosmonaute sur son tracteur. Donc il y a quand même cette sensibilité-là qui est assez dure à...
C'est évident, j'avais le même discours hier d'un agriculteur bio qui nous disait que depuis qu'il était passé en bio à côté des riverains, il avait eu plus de problèmes, parce que plus de traitements avec produits différents, et donc plus d'inquiétudes que quand il était en conventionnel.
Ok. On a encore des questions de Jean-Louis Yengue et Isabelle La Jeunesse. Juste pour info, la pause était prévue à 11h normalement. Du coup, je vais vous laisser la parole évidemment, mais rapidement s'il vous plaît. peut-être Jean-Louis Yengue qui n'a pas encore eu l'occasion de discuter d'abord.
Merci, je ne prends pas beaucoup la parole parce que je note tout plein de choses pour préparer ma conclusion tout à l'heure. Mais là, je réagis très vite parce que, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse et les propos de Corentin m'ont fait réagir rapidement. Souvent, dans l'espace rural, on cloisonne les nouveaux venus et les anciens. C'est plus compliqué que ça. J'ai beaucoup travaillé dans l'espace rural, je continue à travailler. Souvent, les nouveaux arrivent et ils disent on n'est pas arrivé par un putsch, hein. On nous a vendu des terres, on nous a vendu des terres, on est arrivé. Hein. Ils font aussi fonctionner l'espace rural. Hein. Donc, ils font amener des gamins qui font fonctionner l'école, etc. Donc, le clivage est plus compliqué que ça. Je ne sais même pas s'il y a clivage. Et souvent, même dans les questions de conflits, il peut y avoir des conflits entre les agriculteurs eux-mêmes. On l'a vu avec les histoires de Coq Maurice, vous avez entendu parler, où c'est un agriculteur, un ancien, qui accusait une nouvelle venue de faire du bruit avec son coq. Donc, c'est bien plus compliqué que ça. Et je pense que c'est un échappatoire que de se dire on a deux clans qui se mettent dessus. Le problème n'est pas là, à mon avis. Il est je voulais dire. Je retourne dans mes notes pour préparer ma conclusion.
Merci. Juste Mathilde, tu peux peut-être enlever ton PowerPoint pour qu'on te, ouais. te voit. Je te laisse réagir si tu veux.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis. C'est pour ça que je prends cette hypothèse, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et moi, je pense qu'il est sur mon terrain. Mais faudra voir après, à chaque fois, je vais prendre en compte le parcours des personnes concernées, voir si on peut vraiment les mettre dans une case nouveaux habitants ou pas, pour voir si on a vraiment une corrélation entre ce type de discours et des nouveaux habitants.
Ok. Isabelle, je ne sais pas si vous pensez que vous pouvez faire votre question en moins de 3 minutes avec la réponse de Mathilde, histoire qu'on puisse garder au moins 10 minutes, 10 minutes de pause.
Oui, deux petites choses du coup. Lui sont pas forcément ceux qu'il y avait hier. Et les agriculteurs nous font, et notamment les vignerons, puisque comme Corentin, moi, c'est plutôt ceux avec lesquels je travaille en ce moment, et nous ont fait la remarque que les nouveaux riverains n'ont plus, comme avant, un membre de leur famille qui est agriculteur. Donc la représentation qu'on a de l'agriculture est une agriculture qu'on a envie d'avoir ou qu'on rêve d'avoir et qui n'est pas forcément celle réelle. Donc effectivement, je pense que la définition du riverain est probablement quelque chose d'important, surtout si on se place dans des périodes chronologiques. Mmh. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a semblé peut-être à repréciser, c'est, et notamment parce qu'on est à l'université, hein, mais c'est la façon dont sont formés les agriculteurs. Et c'est pas qu'ils veulent pas changer, c'est qu'ils savent pas trop comment. Il y a quand même une relation à « mais comment je fais ?» et « comment je m'autorise la prise de risque ?» Parce que même si on parle de rupture, quand un agriculteur il passe de conventionnel à agriculture biologique, il y a une bascule qui s'opère à un moment, mais c'est un long processus. Même pour la terre, pour passer en agriculture biologique, comme vous disiez, c'est minimum 3 ans. Et moi qui ai travaillé sur les résidus de pesticides dans les sols, je ne vous en parlerai pas pour ne pas vous effrayer. Mais même l'agriculture biologique, ce n'est pas une agriculture pure. Elle va être aussi avec des empreintes, des parcelles qui sont autour. Donc il y a une représentation qu'on se fait de l'agriculture, oui. Notamment quand on est néo rural. Qui est complètement peut-être décalé.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, en particulier sur le fait qu'on laisse porter toute la charge sur les agriculteurs qui deviennent les principaux interlocuteurs de ces questions-là, alors qu'en réalité, ils ont souvent peu de marge de manœuvre. Par exemple, rien que sur ces zones non traitées, elles ont été édictées. Pour certains agriculteurs, ça va être des grosses pertes financières. Même cette question des riverains, pour la prendre en charge, ça demande beaucoup de temps. Pour parler avec les riverains, etc. J'ai fait un entretien pré-exploratoire sur une exploitation qui était entourée de 150 habitations. Et pour résoudre cette problématique, ils étaient obligés d'avoir un demi-poste entier réservé à cette question des riverains. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans les politiques publiques, où en général on va centrer la question sur l'agriculteur sans se demander à l'échelle locale comment il s'en sort, sachant qu'il est souvent tout seul par rapport à ces problématiques-là.
L'autre remarque, je vois Muriel qui s'inquiète, je vais la mettre dans le chat.
J'ai pas accès au chat.
On redistribuera les questions. Okay.
Je pense, à la pause, je vais lui poser ma question.
Et ben voilà. Du coup, on a 10 minutes de pause et ensuite on enchaînera avec l'axe 2 et ce sera à Corentin qui sera chargé de l'animation. Voilà. Donc oui, il reste les 10 minutes de pause, donc si vous voulez continuer le débat, allez-y. Du coup, voilà, on peut faire autre chose également.
Pour la scène judiciaire, on en a une en France quand même sur les pesticides, oui, avec Corinne Lepage, Maître Huglot et...
Oui, avec Paul François qui a enfin gagné son procès.
D'accord, oui, voilà, ouais, c'était ça, parce qu'on avait le sentiment que vous l'externalisiez un petit peu en parlant des États-Unis.
Je l'ai mis de côté parce que...
Monsanto est racheté par Bayer, ouais, donc ça revient en Europe.
Je l'ai un peu mise de côté, mais ça émerge en France. Après, c'est compliqué. Il y a moins de cas en France, par exemple, qu'aux États-Unis, où ils vont, avec leur système de la class action, ils peuvent se permettre de faire des procès qui vont être beaucoup plus gros que dans le cas français.
Oui, nous, on a des signaux faibles, en fait.
Oui, c'est ça. Et en fait, il y a une forte précocité de la prise en compte de cette question-là aux États-Unis par rapport en France. On a quasiment 10 à 15 ans de retard sur plein de domaines différents, par exemple, rien que sur la connaissance des produits phytosanitaires. Jean-Noël Jouzel, dans son livre qui est sorti en 2009 sur la question, a montré que sur nos techniques de mesure, on a eu 10 à 15 ans de retard. Aux États-Unis, ils avaient déjà compris que la principale voie de contamination, c'était la peau. Et en France, au même moment, on était encore sur la question de la respiration et la répartition des pesticides dans l'air. Donc il y a un décalage qui est assez intéressant, que je n'étudie pas dans ma thèse, mais entre le cas états-unien et le cas français.
D'accord. Bien, merci.